Deux questions, deux sujets brûlants pour les cliniciens et peut-être deux surprises à la clé qui pourraient bien bousculer les idées reçues. D'un côté, les exercices physiques permettent-ils réellement de prévenir les douleurs cervicales ou doivent-ils revoir leurs promesses à la baisse? De l'autre, l'entraînement en résistance est présenté comme une piste pour réduire la fatigue liée au cancer, mais que dit réellement la littérature? Bienvenue dans ce troisième épisode de podcast francophone de Minerva où l'on décrypte les faits, les preuves et très souvent les zones d'ombre. Je suis Justine Colson, chargée de communication au département de médecine générale de l'Université de Liège et je vous parle aujourd'hui depuis les studios de la Grand Poste au cœur de Liège. Pour éclairer ces sujets, je suis accompagnée de deux invités engagés dans l'analyse critique et la littérature scientifique. D'abord, Javier Jacquemin, kinésithérapeute, rédacteur pour Minerva et auteur de l'analyse critique de la première étude que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour Javier.
Bonjour Justine.
Et puis une voix que les auditeurs de Minerva connaissent désormais bien, Gilles Enrard, médecin généraliste à la maison médicale Saint-Léonard à Liège, chargé de cours au département de médecine générale de l'Université de Liège et rédacteur pour Minerva. Bonjour Gilles, ravi de te retrouver derrière le micro.
Bonjour Justine.
Javier, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de plonger dans les résultats des études du jour, j'aimerais te lancer une première question, presque une question de mise en contexte. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à défendre avec conviction la pratique fondée sur les preuves et à promouvoir l'importance des revues systématiques avec ou sans méta-analyse?
Tout d'abord, je fais partie également du conseil d'administration de Matera, donc qui est en fait le groupement belge qui regroupe les thérapeutes manuels. Et donc, il y a également cet intérêt d'être le plus scientifique possible. Actuellement, il faut savoir qu'on est biaisé par énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de se dire comment est-ce que je peux être le plus pertinent avec mon patient. J'ai eu un prof un jour qui a dit « Actuellement, la science, l'approche scientifique, c'est ce qu'on a de plus pertinent actuellement pour se rapprocher au maximum de la vérité. » Et donc, l'EBM, l'EBP, finalement, c'est quelque chose qui peut être facile de se dire « Qu'est-ce que moi, je peux changer dans mon quotidien ?» Pas juste en termes de pratique, en termes de technique, mais parfois même simplement en termes de communication, pour aider au mieux mon patient et me rapprocher un maximum de ce qui semblerait être la vérité.
Et toi Gilles, de ton côté, tu en penses quoi?
Oui, donc je suis assez en sympathie avec ce que mon collègue dit ici. J'ai envie de réagir parce que, évidemment, cette quête de la vérité, c'est très noble, c'est très pertinent, on la partage tous, c'est bien d'oser le dire comme ça. Puis alors, il y a l'EBM que l'on défend, une certaine EBM que l'on défend, l'expertise clinique du professionnel, les préférences du patient. Donc c'est ce genre de vérité-là qu'on cherche, évidemment, qui négocie hein, entre ce que les sciences disent, ce que les patients disent, ce que les professionnels de terrain disent. Donc ça, c'est une chose. Et tu as dit un truc important, à mon avis, c'était que l'EBM, l'EBP, pouvait aussi légitimer, renforcer des actions politiques. Tu as une partie de tes activités qui sert à défendre la profession et je pense que ça peut servir à être légitime, entendu, que d'arriver avec des évidences scientifiques pour défendre certaines choses.
Alors, tu as tout à fait raison. Et quand tu disais l'EBM, l'EBP, en fait, si par exemple on ne se base que sur la science, bah, la science est la même pour tout le monde. Donc par exemple, on pourrait se dire, on est censé tous avoir le même avis, tous être d'accord. Si je veux amener au mieux mon patient vers un point qui est souvent le fait d'aller mieux, normalement on est censé être tous d'accord. Et pourtant ce n'est pas le cas. Et c'est là que Minerva a tout son intérêt de par exemple essayer de critiquer des articles en disant celui-ci est peut-être plus intéressant, peut-être un peu moins.
En tout cas, j'adore d'envisager le BP comme quelque chose qui peut rassembler, dévoiler les tensions entre professions et peut-être se dire on est tous d'accord ou on avance tous derrière une bannière qui est déprofessionnalisée, décorporalisée. Hein, c'est pas la corporation médicale contre d'autres. Ça, c'est vraiment une idée œcuménique, j'ai envie de dire.
Alors, pour commencer ce podcast, nous allons nous intéresser à une question qui touche de très près le quotidien des employés de bureau. Les exercices peuvent-ils réellement prévenir l'apparition de douleurs cervicales? C'est un enjeu de santé majeur car c'est l'un des troubles musculo-squelettiques les plus fréquents, particulièrement dans les professions sédentaires. Une revue de 2018 suggérait un effet spectaculaire des programmes d'exercice, mais avec d'importantes limites méthodologiques. Aujourd'hui, une nouvelle synthèse méthodique revisite la question avec des essais plus récents et une analyse plus rigoureuse. Si cette nouvelle synthèse méthodique nous propose une mise à jour importante, elle souffre aussi de plusieurs limites. Absence d'enregistrement préalable du protocole, définition variable de la cervicalgie et surtout un faible nombre d'essais. Quand tu regardes tout ça, Javier, quel est selon toi l'élément méthodologique le plus problématique pour interpréter les résultats et pourquoi?
Alors, Tout d'abord, j'aimerais d'abord expliquer pourquoi j'ai choisi cette analyse. Comme tu l'as dit, Justine, la prévention, je trouve que c'est super intéressant parce que, par exemple, dans mon domaine, dans la kiné, on a beaucoup d'études qui essaient de montrer comment est-ce que, finalement, je peux soigner mon patient. Et la prévention, souvent, on s'arrête sur l'alimentation, le sommeil, voilà, faire du sport, c'est plutôt pas mal. Et de ce côté-là, je trouve cette étude très intéressante pour justement essayer d'amener de manière un petit peu plus spécifique, un peu plus précise, qu'est-ce que la prévention par rapport aux travailleurs de bureau, la kiné pourrait amener. Il y a un deuxième point également de ce pourquoi cette étude a été intéressante pour moi. En fait, la personne qui a suivi les chercheurs, c'est Daniel Bellavi, qui est en fait un chercheur que j'aime beaucoup, qui travaille en Allemagne en ce moment. En fait, il est connu parce qu'il a travaillé également avec la NASA. Et donc, il a étudié tout ce qui est, par exemple, lui, c'est principalement tout ce qui est spinal, donc tout ce qui est le rachis. Comment se comportent finalement nos disques intervertébraux, nos articulations et tout ça dans l'espace. Et en fait, il a été le premier, en 2017, à montrer que, par exemple, la course à pied était bénéfique pour les disques intervertébraux et donc qu'en termes de prévention, ça pouvait être également quelque chose de pertinent. Et donc j'ai trouvé cet article super chouette, et donc quand on en avait discuté avec Gilles, moi j'étais là, je trouve cet article très pertinent, parce qu'en plus la personne qui est derrière a déjà, évidemment, une connaissance et connue dans le monde de la recherche par rapport à ça. Et donc pour revenir à ta question en disant, quelles sont les limites, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, il faut mettre des critères d'inclusion, dire on ne peut pas prendre tous les articles, on est obligé de choisir, et quels sont nos critères, c'est ceci, et donc qu'est-ce qu'on retrouve comme article derrière? Derrière, finalement, il se retrouve avec 5 articles. Donc c'est pas beaucoup, mais finalement on a quelque chose qui est quand même très intéressant, parce qu'en fait dans ces 5 articles là, il manquait par exemple certaines informations, et donc ces informations là, ils se sont dit on va les voir d'une manière extrêmement favorable, voire éventuellement les voir plutôt d'un point de vue très défavorable. Ils ont utilisé un odds ratio, donc en français je pense que c'est une cote de vraisemblance, c'est ça ? Un rapport de cote, et du coup, pour faire simple, en gros, pour comparer l'intervention, on prend les personnes qui ont le problème sur les personnes qui n'ont pas ce problème-là. Et donc, si on arrive à 1, ça veut dire que globalement, avec mon intervention, j'ai des gens d'un côté qui ont le problème et de l'autre côté, des gens qui n'ont pas de problème, mon intervention ne sert un peu à rien. Si par contre, je suis au-dessus de 1, c'est pas top, il vaut mieux changer d'optique. Par contre, si je suis en dessous, là, c'est pertinent. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, dans cette étude, ils ont été transparents. Ils ont dit, en fait, on va prendre ce ratio, mais par contre, on va le prédéfinir. On va dire, si on est en dessous de telle cote ou si on est au-dessus de telle cote, on pourra dire que c'est bénéfique ou que ça ne l'est pas. Donc, même s'il y a parfois des petits manquements dans cette étude, ce qui ne vient pas des auteurs, mais finalement des études qu'ils ont incluses dans cette revue de la littérature avec méta-analyse, ils ont quand même été pas mal transparents.
On observe que les auteurs ont tenté de clarifier les choses avec des seuils prédéfinis d'effets cliniques, mais il n'existe pas de consensus sur ce qui constitue un effet clinique pertinent. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un effet réel si on ne sait pas encore quel type d'exercice fonctionne ni comment les mettre en pratique sur le terrain, notamment en milieu professionnel ?
Alors, c'est tout à fait vrai. Si je me retourne plutôt sur mon côté pratique kiné, in fine, ce qu'on propose dans l'étude, c'est certains exercices spécifiques, non spécifiques, c'est pas tout à fait décrit, c'est pas très clair. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a une hétérogénéité qui n'est pas top finalement dans ces études. Mais par contre, finalement, implémenter des exercices vont apporter également des bénéfices sur d'autres choses, comme par exemple les douleurs de dos, qui sont finalement, et là je me tourne vers toi Gilles, sûrement la première raison, c'est en tout cas ce que la plupart des études et études belges montrent, de consultation en musculo-squelettique chez le médecin généraliste par exemple.
Tout à fait.
Et donc ça amène évidemment d'autres bénéfices que simplement au niveau de la nuque. On pourrait espérer avoir d'autres choses beaucoup plus importante.
Donc il y a plein de choses qui ne sont pas mesurées dans les études, mais que le clinicien de terrain, l'expert de terrain, peut mettre dans la balance pour adopter ou pas une recommandation. J'ai peut-être des réactions en fonction de ce que je vais leur entendre. D'abord sur la raison du choix de cette analyse et pourquoi moi aussi elle m'a plu, c'était que finalement il y avait pas ou peu de recommandations sur le sujet. Et j'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel l'exercice spécifique d'analyse critique, qui est rapide sur la balle, qui peut être fait en quelques heures, quelques jours, quelques semaines en fonction de l'habitude, mais donc c'est quelque chose qui est assez léger, peut avoir toute sa plus-value. Il y a une étude qui sort, une RCT, dans ce cas-ci une revue systématique avec des méta-analyses, je vais en parler, et l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de recommandations. Donc je vais remplir un peu en vide, je vais donner des indications aux cliniciens pour éventuellement adopter ou pas cette recommandation. Ça veut dire que je ne me permets pas de formuler moi-même une recommandation clinique, parce que je ne suis pas un groupe de développement de guidelines, je n'ai pas les compétences, la logistique nécessaire pour faire ça, mais je me permets quand même de me positionner. C'est très renforçant pour le clinicien de terrain de quand même pouvoir agir en l'absence de recommandations, et ça c'est le genre de BM que nous on défend, c'est une BM qui émancipe un peu les travailleurs de terrain, leur dire vous pouvez agir sur base de votre jugement clinique, votre jugement critique, même en l'absence de recommandations. La deuxième, c'est sur cette question de la différence clinique minimale significative, d'accord. On sait qu'il y a des études qui montrent des effets statistiquement significatifs, mais est-ce que vraiment ça change la donne, pour reprendre l'essence de la question de Justine. Dans cette étude-ci, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il dérive, alors c'est un peu délicat au niveau des méta-analyses de le faire, mais il dérive quand même des « numbers needed to prevent », okay, des nombres de patients sur lesquels intervenir pour avoir un événement, pour prévenir un événement en plus. Et ça, c'est très parlant pour des cliniciens de terrain de se dire « ok, j'ai un autre ratio là qui est à 0,8 ou à 1,2, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?» Dans cette analyse-ci, je ne sais pas si c'est les auteurs ou si c'est toi qui l'as calculé.
Non, ce sont les auteurs.
Sinon, ouais. C'est une bonne pratique pour l'analyse critique de le faire lui-même, mais je communique la différence de risque en termes de différence absolue. J'ai 8 patients à recevoir dans mon cabinet, à manipuler, à faire des exercices pour que un d'eux n'ait pas mal à la nuque plus tard devant son ordinateur. Ça donne une idée de cette fameuse gain clinique qui permet à chaque clinicien de juger est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de me taper, entre guillemets, 7 suivis pour des prunes, pour le 8e l'aider. Alors moi, mon idée, c'est que c'est déjà pas mal. Hein. Un number needed to prevent de 8, c'est déjà pas mal. Mais voilà, chaque clinicien se fait son idée lui-même.
En effet, Gilles, ce qui est intéressant également, c'est que les auteurs ici, comme tu le disais, Justine, au tout début, en fait, il y a une incidence très importante auprès des travailleurs de bureau par rapport aux douleurs de nuque. Et les études, globalement, vont montrer que c'est entre 20 et 50%. Et donc ici, les auteurs, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ils se sont dit « Ok, on va faire une supposition, on va partir sur 30%. Mais finalement, on aurait peut-être pu partir sur quelque chose de plutôt 20% ou pourquoi pas 50%. Et donc, on pourrait espérer que ce number needed to treat ou to prevent pourrait être finalement plus important, voire plus faible également. Donc, il faut rester ouvert par rapport à ça. Mais c'est en effet un point très intéressant que tu soulèves là.
J'ai aussi un réflexe de lecteur critique en termes d'implémentabilité, de mise en œuvre, implementation en anglais, de me dire aïe aïe aïe, ces méta-analyses, cette revue systématique, elle n'est pas construite pour évaluer l'impact sur le terrain vraiment. Et moi, en tant que médecin généraliste, je me dis ouï ouï ouï, déjà voir les gens qui ont mal, c'est déjà compliqué de leur trouver une place en kiné. Si on doit voir tous les gens qui vont le matin travailler sur leur ordinateur pour leur empêcher d'avoir mal, comment est-ce que je fais en termes de time needed to treat, hein? On sait que de plus en plus les développeurs de recommandations, on les invite à calculer combien de temps ça va prendre sur le terrain pour ne pas plus noyer les travailleurs de première ligne. Ah, donc cette notion de time needed to treat, elle est encore peu discutée par les auteurs de méta-analyse. Ils pourraient très bien dans leur discussion juger de la pertinence en ces termes.
Tout à fait. Et c'est vrai que finalement, dans le côté prévention, c'est encore plus difficile. On a déjà le cas, par exemple, sur des choses qui sont évidemment beaucoup plus spécifiques, comme par exemple l'hypertrophie. Il y a Brad Schoenfeld, un chercheur, c'est un Américain, qui justement est beaucoup plus précis par rapport à ça en disant « Tiens, est-ce que finalement les gens peuvent avoir des améliorations sur l'hypertrophie ou si finalement simplement une amélioration de la force ?» Et en fait, on se rend compte que le temps est très très faible, donc on pourrait espérer évidemment que dans la prévention, ce soit la même chose et qu'on rentre de plus en plus de manière précise dans cette recherche-là.
Avant de passer à la deuxième étude, que peut retenir un clinicien aujourd'hui ? Faut-il conseiller ses exercices, rester prudent ou attendre de meilleures études ?
Alors c'est certain qu'il reste de l'incertitude, mais pour autant, en tant que praticien, je me dois quand même de demander aux gens de bouger, d'essayer de prévenir au maximum. En tant que chercheur, en tant que canaliste pour Minerva, c'est certain qu'on pourrait être un peu plus précis, mais je pense que ça peut être pertinent de voir en tout cas ce que l'avenir nous promet en termes de recherche dans le domaine.
Moi, je serais prudent en termes d'engorgement de nos services de santé, en termes de plus-value par rapport à d'autres choses. Je pense qu'aussi l'aspect sécurité de cette intervention a été peu étudié. On ne sait pas exactement ce que ça crée aux gens de leur parler de mal de nuque alors qu'ils n'en souffrent pas, etc. Donc je serais prudent sur le terrain, j'attendrai d'autres études avant d'implémenter ça.
Alors, petit aparté, en France, par exemple, ils ont été un peu plus loin, ils ont des éducateurs physiques avec des formations particulières, on appelle ça les APA, donc activités physiques adaptées. Donc ça ne va pas être les médecins, ça ne va pas être les kinés, ça ne va pas être d'autres professionnels de santé, ce sont finalement des éducateurs physiques. On en a en Belgique, ils sont très bien formés par rapport à ça. Et cette formation en plus qui arrive également en Belgique, cette formation APA, en fait, permet à ces éducateurs physiques de prendre en charge des patients, que ce soit d'un point de vue de la pathologie. Tiens, moi finalement, j'ai quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque. Tout le monde recommande, il faut faire du sport. Oui, mais jusque quel degré, quel pourcentage de fréquence cardiaque, il faut quelqu'un qui suive tout ça. Et donc, on se rend compte que d'un point de vue long terme, c'est beaucoup plus intéressant. Mais finalement, en termes de prévention, je pense que ce sont aussi des acteurs de terrain qui pourraient être très intéressés et très intéressants dans ce genre de domaine, par exemple.
Donc, l'émergence de nouveaux métiers, on voit ça chez les infirmiers, je vois que ça émerge aussi chez les kinés, enfin, dans le domaine de l'activité physique, c'est super.
Passons maintenant à un tout autre terrain clinique, mais qui touche des milliers de patients, la fatigue liée au cancer, l'un des symptômes les plus fréquents, les plus invalidants et souvent les plus difficiles à aborder en consultation comme en rééducation. Depuis plusieurs années, l'exercice physique est régulièrement présenté comme une piste de prise en charge prometteuse, mais une question revient sans cesse. L'entraînement en résistance apporte-t-il réellement un bénéfice supplémentaire, concret et mesurable pour réduire cette fatigue ? Gilles, en quoi est-il important pour un médecin généraliste de s'intéresser à l'activité physique pour ses patients atteints d'un cancer ?
Alors, je pense qu'il est surtout intéressant et important de s'intéresser à la fatigue des gens qui sont face à un cancer ou qui ont été face à un cancer et d'éventuellement envisager l'activité physique comme une réponse à cette fatigue. Mais je ne rentrerai pas en tant que clinicien nécessairement par la nécessité d'activité physique parce qu'il y a un petit côté remise en action des gens dont je me méfie un petit peu. Mais voilà, donc après, on va regarder les datas, on va regarder les données, on va voir si ça peut réellement les aider. Mais en tout cas, je préfère avoir le poids d'entrée sur la fatigue et sur la limitation de leur vie de tous les jours que sur la nécessité ou pas de bouger plus.
Javier, je me tourne à présent vers toi. Peux-tu nous expliquer ce qu'est exactement un programme d'entraînement en résistance pour les patients atteints de cancer ?
C'est un peu du jargon, ça, quand même. Hein. En résistance.
En résistance.
Ça veut dire quoi, ça ?
Finalement, c'est tout simple. Hein. En résistance, c'est simplement soulever du poids. Mmh. Alors, c'est là où, justement, la recherche est très intéressante. C'est qu'en fait, soulever du poids, on peut le faire de plein de manières différentes. Est-ce qu'on le fait de manière légère ? Est-ce qu'on le fait de manière lourde ? Qu'est-ce qu'on considère comme lourd ? Alors, ça peut se mesurer, etc. Chez des patients, bah, évidemment, avec des pathologies comme, par exemple, des patients atteints de cancer. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est implémentable dans une pratique clinique raisonnée ? Est-ce qu'on ne met pas le patient en danger ? Et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer ? Donc finalement, c'est simplement soulever du poids. Et ça peut être avec un élastique ou avec des poids très lourds.
Vu que tu abordes un tout petit peu directement la question de l'hétérogénéité clinique des interventions, effectivement, est-ce que je lève beaucoup de poids, pas beaucoup de poids, mais est-ce que je le fais de manière supervisée ou pas ? Est-ce que je le fais de manière fréquente, longue, sur la durée, etc. Donc c'est une des grandes difficultés de cette étude, c'est que, et alors c'est même une réflexion un peu générale sur les méta-analyses, est-ce qu'on peut comparer des pommes et des poires ? Qu'est-ce qu'on fait de cette hétérogénéité statistique clinique ? On peut peut-être faire la différence entre les deux pour nos lecteurs. On parle d'hétérogénéité statistique quand, d'un point de vue de l'effet réel d'une intervention, mais de biais de mesure, de biais de publication sont présents, d'accord ? Et on peut voir cette hétérogénéité statistique, soit de manière visuelle sur un forest plot où les petites moustaches se superposent bien. Il y a des tests statistiques qui ont été faits d'ailleurs dans cette méta-analyse, tests de I carré plus ou moins grands. Et là, on voit que cette hétérogénéité statistique, elle est très forte. 72%, donc on se demande même comment ils ont osé faire une méta-analyse avec une hétérogénéité pareille. Et puis il y a l'hétérogénéité clinique, elle a trait, est en lien avec la diversité des patients inclus, âgés, première ligne, deuxième ligne ou pas, enfin voilà tout ça. L'hétérogénéité en termes d'intervention, on vient d'en parler, hein, est-ce que c'était supervisé ou pas, intense ou pas, de mesure. Donc là, pour moi, c'est typiquement cette deuxième méta-analyse en lien avec la fatigue, elle est tellement hétérogène d'un point de vue clinique et statistique que pour moi c'était très compliqué d'en faire des méta-analyses et qu'on aurait peut-être dû se contenter de faire une revue narrative en discutant cette hétérogénéité plutôt que de vouloir pouler ces résultats mathématiquement.
Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gilles.
Il y a des grands courants, hein, comme ça les anglo-saxons parlent de lumpers et de splitters, les gens qui veulent découper en petits morceaux pour garder la spécificité, la singularité d'une intervention et bien la comprendre. Et puis ceux qui disent, ben non, on va approcher la vérité, comme tu disais, de manière plus efficace en globalisant, standardisant, etc., via plein de manières. Par exemple, ici, ils ont fait des différences moyennes standardisées. Donc ils se sont dit, aïe, 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 les études X et Y n'ont pas pris les mêmes échelles de mesure, et ben c'est pas grave, on va faire une petite manipulation statistique et on va normaliser tout ça pour quand même pouvoir additionner les résultats. C'est décrit dans les bouquins, c'est classique, mais jusqu'à un certain point, on peut se demander en quoi les résultats veulent encore dire quelque chose. Et là, il y a une controverse au niveau scientifique qui n'est pas tranchée.
En fait, cette hétérogénéité, dans le domaine de la kiné, elle est quand même très souvent présente.
Ouais.
On arrive souvent dans les conclusions de grosses études avec méta-analyse. Ah, l'hétérogénéité n'est pas top, il faudrait qu'on refasse, il faut plus d'études, il faut aller un petit peu plus loin. Et donc, notamment, la revue Cochrane a sorti quelques articles dans ce domaine-là en disant bah, en kiné, ça pourrait vraiment être pertinent d'essayer de sous-grouper les patients et d'essayer de voir si, du coup, dans cette hétérogénéité qui est plus correcte, est-ce qu'on n'en sort pas des tendances qui pourraient apparaître ? Donc on est beaucoup plus actuellement, dans le domaine de la kiné actuellement, à essayer de sous-grouper un maximum. Mais par contre, derrière, il faut les études qualitatives et il faut quand même de la quantité. Il faut des valeurs pour pouvoir les additionner, ouais, et faire toutes les statistiques dessus.
J'aime bien que tu parles de ces analyses en sous-groupe. Le terme général, peut-être pour nos auditeurs, si je ne me trompe pas, on parle d'analyse de sensibilité. On a un effet global comme ça. Dans le meilleur des cas, tout ça doit être préétabli, prédéfini, sinon on peut être accusé de faire du triturage de données, hein, de mettre un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, de supprimer une étude pour avoir des effets qui deviennent pertinents. Mais si c'est prédéfini, ces analyses de sensibilité en se disant « tiens, je vais un petit peu jouer, je vais prendre une étude qui est à fort risque de biais, je vais la supprimer et je vois ce qui se passe. Ah tiens, je vais prendre toutes les études qui datent d'avant telle date parce que les pratiques ont changé et je vais voir ce qui se passe. » Pour voir si les faits résistent à ça. Et en fait, il y a plusieurs avantages à ça. C'est que je peux, face à un effet général où tout est plat, il n'y a rien qui bouge, voir s'il y a des niches dans lesquelles je peux quand même persévérer. Ça peut être générateur d'hypothèses. Si jamais ces analyses de sensibilité, j'ai un effet positif qui résiste à ces analyses de sensibilité, ça nous renforce sur la robustesse de ce résultat. Donc ça, c'est des petites choses qui sont inhérentes à la méthode des méta-analyses, des revues systématiques et qui peuvent apporter une plus-value.
Alors pour conclure cette deuxième analyse, j'ai encore deux petites questions à vous poser. La première, c'est que faudrait-il selon vous pour que cette approche devienne une recommandation solide et standardisée dans la pratique clinique ?
Alors moi d'abord, je pense qu'il faudrait monter un groupe de développement d'une recommandation clinique qui soit pluridisciplinaire, pas qu'avec des médecins, avec des kinés, avec des peut-être même des sociologues hein, qui nous aident à réfléchir quoi les gens sont fatigués au 21e siècle, avec des statisticiens, des méthodologistes. Il y a moyen de faire plus vite, j'appelle ça les rapid reviews ou les dynamic reviews, etc.
J'imagine que tout ça coûte un peu moins cher également, parce qu'il faut savoir que faire des études, ça coûte cher. Donc c'est quand même pour ça qu'on a d'un côté les industriels qui font parfois des études qui sont très robustes, mais parfois avec pied de vente. Et de l'autre côté, on a essentiellement tout ce qui est le public avec les universités. Donc est-ce que ça coûte beaucoup moins cher? Est-ce que tu le sais, Gilles?
Alors, je ne sais pas du tout si le privé à but lucratif, donc les firmes, etc., se lancent dans des méta-analyses, etc. Ce n'est pas trop leur dada, c'est plutôt un truc de chercheurs. Puis alors, souvent, les gens qui font les revues systématiques se font en préalable de développement de guidelines. Hein, c'est une étape préalable. Où je fais une thèse, je fais d'abord une revue systématique. Ici, on a parlé de deux revues systématiques et méta-analyses classiques, mais il y a plein de méthodes beaucoup plus atypiques. On parle maintenant de scoping review, on parle de revues en network méta-analyse, etc. Donc il y a plein de nouvelles méthodologies, mais ça, c'est plutôt des histoires de chercheurs, d'académiciens, de thésards, etc. Pas tellement de firmes pharmaceutiques.
On joue avec les valeurs.
Mais c'est quand même des recherches originales. C'est quand même la création de nouvelles données. C'est pas simplement une revue narrative, journalistique, comme ça. Donc les gens qui font de la méta-analyse, c'est une recherche personnelle.
Et puis comme tu disais, les méta-analyses en réseau, elles sont intéressantes parce que parfois, ça peut montrer, tiens, ce serait intéressant qu'on aille chercher un petit peu plus loin. Les études, parfois, l'objectif n'est pas toujours de dire, ok, bah finalement, c'est ça ou c'est pas ça qu'il faut faire, mais parfois de dire, ok, si on va dans ce sens-là, ça pourrait être intéressant.
Quel conseil pratique pourriez-vous donner pour adapter ces programmes aux patients en fonction de leur traitement et de leur état physique?
Je compte sur mes collègues kinés, hein, une réunion de discussion de cas, et on s'assied, on parle 5-10 minutes et on fait ça. Et puis le patient va nous dire si ça lui fait du bien, si ça lui fait... On est quand même ici face à l'exercice physique dans un contexte de cancer, comme dans le cas de la prévention de la cervicalgie. On est dans des domaines où il n'y a pas des enjeux vitaux immédiats, donc on peut y aller un tout petit peu N égale R trials, donc s'ajustant en fonction de ce que les gens en pensent. Et c'est le confort de la première ligne, c'est qu'on peut souvent faire comme ça. Donc ici, j'aurais pas trop peur d'expérimenter entre guillemets avec les gens. Hein.
En plus, il existe déjà en Belgique des chouettes projets, que ce soit plutôt petit ou plutôt grand en milieu hospitalier, où en fait on essaye également de sortir les gens du milieu hospitalier. Donc par exemple, de faire des séances, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être. Mais finalement, sortir du milieu hospitalier et que ces gens recréent ce lien social avec d'autres personnes et qu'en fait ça ne devienne simplement qu'une séance de sport en groupe, en fait.
Et là, je ne sais pas si on a besoin de RCT, de méta-analyse pour vraiment nous convaincre de mettre les gens en groupe. Il suffit de voir leur sourire, de voir leur satisfaction pour avancer. Et là, on parle
des limites. Restons scientifiques, Gilles.
Pour moi, ça marche main dans la main. Ces deux indicateurs marchent main dans la main.
Nous arrivons déjà à la fin de ce troisième épisode. Ces deux études nous rappellent combien il est essentiel d'allier curiosité scientifique et prudence clinique. Les exercices physiques et l'entraînement en résistance montrent des bénéfices prometteurs, mais le chemin vers des recommandations fermes reste semé de limites méthodologiques et de zones d'ombre. Pour le clinicien, l'enjeu reste donc de savoir traduire ces données en conseils adaptés à chaque patient, tout en continuant à suivre les nouvelles preuves qui émergent. Merci à Ravière et Gilles pour ces échanges riches, et merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi ce troisième épisode de Minerva. Restez curieux, critiquez les évidences et prenez soin de vos patients et de vous-même.